Donc là, c'est la première exposition qui ouvre l'année Balzac. Il y en aura d'autres, mais je vais d'abord laisser la parole à Jérôme qui va peut-être vous parler un peu plus de cette année Balzac.
Merci Madame l'adjointe à la culture. Juste quelques mots, bonsoir à tous. En effet, nous avons en ce mois de janvier, puisque nous sommes encore en janvier, un troisième événement autour de Balzac. Je vous rappelle que nous fêtons en 2019 le 220e anniversaire de la naissance de Balzac, 1799 rue Nationale à Tours. Tours, c'est Balzac, Balzac c'est Tours, c'est ce que j'aime à répéter, mais parfois on a tendance à l'oublier. Cette année va évidemment est faite pour qu'on se rappelle de cet homme célèbre, cet écrivain, mais aussi de la comédie humaine, qui est son œuvre majeure, et puis aussi de l'homme Balzac, extrêmement riche dans toute sa personnalité. Alors, on a déjà eu une dictée qui a eu lieu sur Eugénie Grandet en ce début de mois. On a eu une conférence avec le directeur de la maison Balzac de Paris, à l'IUHR, donc à la Villa Rabelais, autour de la gastronomie et Balzac. Et ce soir, donc, nous avons eu une très jolie exposition qui parle de sa vie plus intime, plus privée, puisque c'est son cheminement pour aller voir Madame Ambuska. Je crois que beaucoup savent, et puis il y aura des conférences autour de cet amour, d'abord platonique, et puis après le mariage, dans ces contrées, puisque c'était aussi un grand voyageur, Balzac. À cette époque, on voyageait pas aussi facilement que nous pouvons le faire maintenant, mais c'est un homme qui a beaucoup voyagé dans toute l'Europe, et qui donc a été au fin fond de Pologne et Ukraine, retrouver Madame Ambuska. Je vais laisser après ma collègue, et c'est vrai, avec qui j'ai beaucoup travaillé, puisque, bien entendu, même si on m'a travaillé, vous avez eu déjà un avant-programme à l'automne, ce petit livret rouge, il y aura mi-mars le programme définitif, puisqu'on a beaucoup d'autres associations ou établissements de la ville qui se sont, bien sûr, investis dans le projet Balzac, 220e anniversaire de sa naissance. Donc vous le retrouverez en mars. Et donc je vais laisser ma collègue, avec qui on a beaucoup travaillé, bien sûr, sur un aspect culturel, parce que Balzac, ça reste quand même un écrivain avant tout, et une fierté à l'international aussi, puisque lorsque nous voyageons, quand on nous parle de la France, on nous parle aussi de nos écrivains, et quand on en parle, Balzac et Victor Hugo sont encore nos gloires populaires dont on est très fiers. Voilà, je laisse Christine Beuzelin continuer sur l'exposition. Bonne soirée. Et encore une bonne année.
Je ne sais pas si on entend très très bien. Vous allez dire, moi, je vais vous dire un peu, enfin, vous expliquer comment on est arrivé, enfin, comment Balzac est arrivé en Ukraine, si la plupart d'entre vous le savent, peut-être pas tous les détails, parce que c'est une longue histoire d'amour. Très longue, vous allez voir. Bien au-delà de toute contingente, le voyage en Ukraine fut pour Balzac l'aboutissement d'une quête, la réalité d'une attente, une sorte de graal romantique, enfin trouvé au crépuscule de sa vie. Tout avait commencé en 1833, après presque 2 ans d'un long, fervent et passionné échange épistolaire avec une belle étrangère. L'écrivain, alors âgé de 34 ans, rencontre enfin sur les bords du lac de Neuchâtel celle dont il ne connaissait que le prénom, Evelina, épouse du comte Anski. Il lui faudra attendre le 26 janvier 1834, ce jour inoubliable où elle désarma toutes ses défenses. Après, tu dis que c'est un amour platonique, on ne peut pas.
Il y a 2 ans d'attente quand même.
Malheureusement, Balzac devra patienter jusqu'au décès du comte en 1841 et se morfondre encore 8 années avant de retrouver son inspiratrice. Retrouvailles d'abord flamboyantes qui les firent voyager en Europe, mais qui entraînèrent au fil des mois une certaine lassitude chez Madame Ambuska, notamment en raison de la prodigalité de son amant, qui puisa abondamment dans la cassette qu'elle avait mise à sa disposition. C'était déjà lié. Lassitude teintée également de dépression, puisqu'elle fit une fausse couche à la fin de l'année 1846. Tout ça sans être mariée, oh là là. Balzac effectua finalement son premier voyage en Ukraine de septembre 1847 à janvier 1848, date à laquelle il fut rappelé à Paris pour ses affaires. période extrêmement pénible pour l'écrivain, où la souffrance physique le disputait aux difficultés financières et bien sûr au terrible chagrin d'être une nouvelle fois séparé de sa bien-aimée. Malgré une santé effroyablement chancelante, il reprit en 1849 la route vers l'Ukraine pour la retrouver, et le 14 mars 1850, elle accepta enfin de l'épouser. 1850, ça a commencé en 1833, c'est pour ça que je... Heureux, mais terriblement affaibli, Balzac décida dès le mois d'avril de revenir en France avec son épouse, où il décéda le 18 août 1850, à 51 ans. Donc il est resté marié, même pas 6 mois, de mars à août. Extraordinaire prémonition que ses télescopes avec sa vie, lui qui dans son roman Albert Savarus, publié en 1842, avait écrit. Atteindre le but en expirant comme le coureur antique, obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint. Ce sont donc ces paysages de l'ancienne Pologne et d'Ukraine que nous offre aujourd'hui le photographe Sergueï Tarassov pour nous entraîner sur les traces des amours tumultueux de Balzac et d'Eva Hanska. Ainsi, depuis l'arrivée de Balzac à Berdichten jusqu'à la propriété de sa muse, le château de Verkhovna, le photographe nous propose sa propre vision des sites hantés par nos amants dans une débauche de couleurs. Il y a de la couleur, c'est vrai. Fidèle à son style de saturer l'intensité des couleurs, Tarassov vous fera notamment découvrir les coupoles du monastère de la Laure à Kiev, je ne sais plus si c'est dans cette salle, étincelantes comme des bijoux sur des ciels qui semblent empruntés à la mer Égée. Je vous invite donc à vous approprier le voyage de Balzac en rêvant à votre tour devant ces lieux qui lui ont inspiré de si grandes émotions et tellement de belles pages, et vous encourage bien sûr, j'espère que ça vous a donné envie de relire, pas toute l'œuvre de Balzac, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont tout lu. Si, il y a Amélie Nothomb qui a lu toute la Comédie humaine, c'est pas mal, qui est une fervente admiratrice de Balzac, et Benabar, qui est effectivement, qui a acheté des éditions originales et qui n'a pas tout à fait fini la Comédie humaine, mais qui est nettement plus avancée que nous.
Oui.
Donc, je remercie toute l'équipe du château, comme d'habitude, qui est vraiment formidable, et on vient de me dire encore, vraiment, l'ambiance au château est formidable. Et c'est vrai. Mais avant de... J'ai pas oublié, j'allais dire avant de passer au verre d'amitié, Jérôme veut vous dire encore un mot. Bonsoir.
Je voudrais juste rappeler qu'il y a une autre personne qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. Vous savez, quand on fait des projets comme ça, comme le disait Madame Beslin, c'est un projet qui est, je dirais, presque choral. Donc c'est avec des élus, des services, et puis aussi toute l'installation que vous avez. Mais aussi, on a un autre collègue, qui est Monsieur Jacques Chechenko, qui est adjoint au patrimoine, et qui nous a beaucoup aidé, puisqu'il connaît très très bien l'Ukraine. Il nous a beaucoup aidé pour trouver ce photographe et faire aussi le relais. Il s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais il sera là sur d'autres moments avec Balzac.
Il y avait véritablement un impératif, puisqu'aujourd'hui, c'était une journée, j'allais dire, c'est presque tous les jours très chargée. Il y a une conférence, enfin, où il y a un rassemblement, une association des guides. Et donc, en tant que patrimoine, il est là-bas. Mais je sais qu'il viendra ici voir l'exposition chère à son cœur. Voilà.